Bonjour, bienvenue dans Politique. Notre invité aujourd'hui, Gérard Araud. Bonjour Gérard Araud.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur de France à Washington. Vous avez été en poste de 2014 à 2019. Auparavant, ambassadeur en Israël, représentant de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, chef de la mission permanente de la France aux Nations Unies. Je cite seulement une partie des postes que vous avez occupés pendant vos 37 années passées au Quai d'Orsay. 37 années que vous racontez dans un livre publié l'an dernier chez Grasset, Passeport diplomatique. Alors la surprise a été telle en 2016 qu'on voit aujourd'hui à quel point la prudence est de mise à quelques jours de la présidentielle américaine. Trump, Biden, il y a de l'incertitude dans l'air. Si cette élection nous occupe autant tous les 4 ans, nous les Français, ce n'est pas seulement parce que les États-Unis sont la première puissance mondiale et qu'à ce titre, leur influence, bien qu'en retrait ces dernières années, reste prépondérante. C'est aussi parce que nous entretenons avec ce pays de vieilles relations, faites surtout d'amitié, mais aussi de moments de fortes divergences, des moments où la diplomatie doit s'exercer en coulisses pour arrondir les angles du discours politique. Aux avant-postes de la diplomatie, il y a les ambassadeurs. Celui qui occupe le poste en ce moment à Washington, Philippe Étienne, a été nommé en 2019. Nous sommes donc en compagnie de son immédiat prédécesseur pour poursuivre cette semaine spéciale sur France Culture autour de la présidentielle américaine. C'est donc avec vous que nous allons passer les prochaines minutes, Gérard Araud. Je précise que vous êtes à New York et qu'à New York, comme à Paris, d'ailleurs, on est à quelques heures de cette présidentielle américaine. La première question que j'aimerais vous poser en tant qu'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, si on se place, Gérard Araud, du point de vue des intérêts de la France et de ses seuls intérêts, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit Donald Trump qui l'emporte ou bien Joe Biden ?
Bien d'abord, regardons les deux visions du monde. Je crois que jamais depuis 1932, c'est-à-dire l'élection de Roosevelt, on a vu deux candidats qui sont porteurs de visions du monde et de visions des États-Unis également, à ce point antagonistes. D'un côté, vous avez Donald Trump, nous l'avons vu pendant 3 ou 4 ans, mais s'il était réélu, il irait jusqu'au bout de sa vision du monde, puisqu'il aurait été justifié par sa réélection, et puis parce que rien ne le retient, et sa vision du monde, on la connaît. C'est un monde fondé sur les rapports de force les plus brutaux, c'est un monde hostile au multilatéralisme, et en particulier, il a déjà annoncé qu'il lancerait une guerre commerciale contre l'Union européenne, qu'il juge, je le cite, « pire que la Chine ». C'est également une indifférence aux valeurs, une indifférence aux droits de l'homme, une indifférence aux alliances, au passé. C'est en gros de traiter le Royaume-Uni comme la Chine lorsqu'ils négocieront un accord de libre-échange. C'est donc l'annonce d'un monde de carnivores.
Et Joe Biden, alors, c'est tout l'inverse ?
Joe Biden, c'est différent, c'est très très différent. C'est d'abord, il rentrera dans l'accord sur le nucléaire iranien, il rentrera dans l'accord climatique et il recommencera, je dirais, un processus diplomatique classique et notamment avec les Européens. C'est donc très différent. Mais je voudrais, c'est pour ne pas être trop long, mais je voudrais quand même dire que néanmoins, ceux qui rêvent, notamment parmi nos amis européens, de voir avec Joe Biden le retour, d'une certaine manière, à la diplomatie américaine traditionnelle, les États-Unis gendarmes du monde, se trompent amèrement. Parce que, en réalité, on l'avait déjà vu sous Obama, ça a continué sous Trump, il y a ce que vous avez dit dans votre propos liminaire, nous sommes dans une logique de retrait des États-Unis, et Joe Biden sera contraint de s'inscrire dans cette tendance, contraint ne serait-ce par la gauche du Parti démocrate.
On a quand même compris dans ce que vous dites que même si ce retrait sera peut-être moins important, en tout cas Joe Biden partage davantage les valeurs européennes et donc françaises que Donald Trump, à propos de qui vous aviez tweeté, vous vous en souvenez forcément, lorsqu'il a été élu en 2016, Gérard Araud, vous étiez en poste hein, comme ambassadeur à Washington. Lorsque Trump est élu, vous tweetez ceci, « Après le Brexit et cette élection, tout est désormais possible. Un monde s'effondre devant nos yeux. Un vertige. » Alors le fait de tweeter ça quand on est ambassadeur, ça avait valu quelques réactions, on va dire, de surprise. Mais moi, je voudrais savoir si ce vertige-là, vous le ressentez toujours 4 ans après.
Ah ben oui, vous savez, ce tweet, j'avais fait une erreur d'envoyer ce tweet, mais cela étant, ce tweet n'était pas une critique de Donald Trump, et ce tweet était absolument vrai. C'était le monde qui s'effondrait, c'était celui de nos certitudes, celui des certitudes des démocraties libérales. Et nous avons vu que le populisme a continué de s'étendre et de prospérer à travers les démocraties occidentales. Et donc nous sommes face aujourd'hui, je le crois, face au même vertige. Vous savez, quand j'étais à Paris il y a quelques semaines, et quand j'allais sur les plateaux de télévision, on me disait d'un air apitoyé, oh là là, ça va mal aux États-Unis. Et je répondais, mais croyez-vous que ça aille bien en France ou au Royaume-Uni? À travers toutes les démocraties occidentales, nous avons la même révolte de 35% ou 40% de nos citoyens qui jugent que le système est injuste et qui veulent renverser la table.
Alors vous avez évoqué au début de cette discussion, Gérard Haro, le style assez brutal, hein, disons, qui est celui de Donald Trump. Ça s'est ressenti dans les relations bilatérales qu'il a pu entretenir avec un certain nombre d'autres chefs d'État, dont Emmanuel Macron, même si la toute première relation avait plutôt bien démarré, mais ça s'est assez vite dégradé, notamment en juin 2017, donc peu de temps après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Et c'est le moment justement où Donald Trump annonce le retrait de l'accord de Paris.
La question est donc de savoir jusqu'où nous pouvons aller avant d'être ridicules. Ce que nous voulons, c'est quelque chose d'équitable pour nos citoyens. Nous voulons que nos contribuables soient traités avec respect et de manière équitable. Nous ne voulons pas que les dirigeants des autres pays se moquent de nous. Et croyez-moi, cela est sur le point de s'arrêter. J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas de Paris.
Je peux vous l'assurer. La France n'abandonnera pas le combat. Je vous appelle à rester confiant. Nous réussirons, car nous sommes pleinement engagés. Car où que nous habitions, qui que nous soyons, nous partageons tous la même responsabilité.
Make our planet great again.
Make our planet great again, on l'a pas traduit, mais c'est évidemment une reprise adaptée du slogan qui a permis à Donald Trump de se faire élire. Gérard Haro, à ce moment-là, donc juin 2017, vous êtes ambassadeur à Washington. Quand cette passe d'armes a lieu, et il y en aura d'autres, quel est votre rôle en tant, justement, qu'ambassadeur de France aux États-Unis?
Non, mais d'abord, excusez-moi, mais la relation entre Donald Trump et Emmanuel Macron est restée bonne, hein, et elle est restée bonne encore aujourd'hui. En réalité, avec Donald Trump, une relation, c'est, je dirais, assez virile. Et cela, il l'accepte. Tant que vous ne le poignardez pas dans le dos, vous avez tout à fait le droit de vous engueuler. Et il l'a fait avec tous les dirigeants occidentaux, mes collègues britanniques et mes collègues allemands m'ont dit à quel point eux-mêmes, la chancelière Merkel ou Madame Theresa May se sont fait insulter par Donald Trump. Donc ça fait partie un peu du personnage. Et Emmanuel Macron a gardé une relation de travail avec Donald Trump et c'était indispensable. Parce que à Washington aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui compte, une seule personne qui prend la décision, c'est Donald Trump. Et de temps en temps, Paris m'appelait en me disant « Ah, il faut que tu passes tel message », et j'étais obligé de répondre « Je suis désolé, mais les personnes que je peux atteindre, même le Conseil national de sécurité américain, ne sont pas au courant et n'auront aucune influence sur la décision. Donc il faut qu'Emmanuel Macron appelle Donald Trump, et le président de la République le faisait régulièrement. Ils se sont appelés plus d'une fois par semaine au cours de ces dernières années. »
Oui, parce que j'allais justement vous poser la question, Gérard Haro, en tant qu'ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Alors si la relation entre Trump et Macron était finalement meilleure que ce qu'on a pu laisser entendre dans cet extrait, quid des relations entre l'ambassadeur de France et l'administration américaine? Est-ce qu'elle était aussi simple ou est-ce que c'était plus compliqué au-delà du fait d'avoir une difficulté à atteindre directement les oreilles du président américain?
Ben, vous savez, c'était le problème, tout simplement, c'est qu'en face de vous, vous n'aviez plus d'administration américaine. C'est très très étonnant. Donald Trump n'a jamais eu dans sa vie de fonction exécutive, n'a jamais eu de bureaucratie à diriger, n'est-ce pas? L'organisation Trump, c'est une petite entreprise. Il arrivait le matin, il donnait ses ordres comptables, il n'y avait même pas de conseil d'administration, et il n'a jamais compris comment une administration fonctionnait. Et donc, vous aviez en face de vous, à Washington, soit des bureaux vides, parce que les gens n'avaient même pas été nommés, soit des gens qui étaient là, mais qui ne savaient pas ce que le président allait décider le lendemain, et qui ne savaient pas ce que le président avait décidé la veille. Et cela jusqu'au niveau du conseiller national de sécurité, qui a appris devant moi que les États-Unis allaient sortir de l'accord nucléaire iranien 3 jours plus tard, ce qui est quand même assez effarant. Moi-même, j'étais dans le bureau de la direction générale de la CIA lorsque elle a appris que les États-Unis allaient se retirer de la Syrie. Donc on a eu un personnage, Donald Trump, qui prend des décisions, on ne sait pas sur quelle base, et qui ne sait pas lui-même qu'une décision ensuite, il faut quand même la mettre en œuvre, il faut que la bureaucratie se mette en ordre de bataille. D'habitude, les États-Unis, c'est un État bureaucratique avec des processus de décision assez complexes et assez lourds d'ailleurs, et assez longs et assez lents. Eh bien là, ce n'est plus du tout le cas. Vous avez en face de vous des gens qui ne savent pas.
Alors, pardon de vous poser la question de manière aussi abrupte, Gérard Haro, mais dans ces conditions, à quoi sert l'ambassadeur de France à Washington ?
Alors, c'est une très bonne question que je me posais moi aussi. Qu'est-ce que je pouvais faire dans ce contexte-là ? Il n'y avait plus de bureaucratie et on était placé dans un système, je dirais, de style monarchique. C'est-à-dire que ceux qui comptaient, c'était la famille de Trump, et notamment son beau-fils et sa fille. C'était aussi quelques conseillers de l'ombre. Donc on était passé, plutôt à Saint-Simon. Ce qui était important également, c'était d'avoir des relations, je dirais, sociales, mondaines avec ces gens-là, de les inviter à déjeuner, de dîner, pour essayer, à partir de là, d'avoir une idée dans quel sens aller jouer Donald Trump. Ensuite, c'est évidemment le travail habituel, essayer de voir du côté du Congrès, de comprendre ce qui se passait du côté du Congrès, où d'ailleurs vous trouviez des parlementaires, y compris républicains, qui eux-mêmes se demandaient ce que Trump allait décider le lendemain et qui levaient les yeux au ciel, mais qui n'avaient pas le choix et qui devaient suivre Trump parce que leurs électeurs étaient fanatiquement trumpistes. C'était une sorte d'essayer de redéfinir le métier d'ambassadeur dans un contexte, il faut bien dire, assez sportif.
Est-ce qu'on pourrait dire de ce point de vue, Gérard Haro, que le rôle de l'ambassadeur avec Trump, mais aussi plus généralement avec d'autres administrations, c'est notamment celui d'être un super informateur pour le pays par qui on a été nommé?
Oui, c'est-à-dire vous devez. Il y a plusieurs aspects pour l'ambassadeur. Il y a aussi la direction des services, il y a aussi les services consulaires, les deux français. Et Dieu sait si nos amis, nos compatriotes demandent de l'aide à l'étranger. Mais vous avez aussi essayer de faire comprendre à Paris ce qui se passe dans la capitale de votre pays de résidence. D'abord d'expliquer aussi, parce que par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'expliquer à Paris ce qu'était Donald Trump, ce qu'étaient les États-Unis de Donald Trump, ce qu'était l'administration de Donald Trump. Et je le savais, mes collègues britanniques et allemands notamment, avec qui je discutais souvent, avaient un peu le même problème. Il y avait aussi le problème d'essayer de, comme vous me posiez la question, d'essayer de comprendre, d'avoir des contacts avec un système qui était totalement différent et totalement nouveau, donc pour informer Paris. Mais il faut aussi informer les États-Unis ou essayer d'avoir une influence sur les décisions américaines lorsqu'elles recoupent les intérêts français. Et donc là aussi, c'était d'essayer, comme je vous l'ai dit, d'avoir une sorte d'accès un peu indirect à Donald Trump, ou alors avoir le président de la République qui appelle Donald Trump. Et puis aux États-Unis, c'est un pays immense. Beaucoup de choses ne se passent pas à Washington, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel. Et donc, un ambassadeur, ça, aux États-Unis, ça passe au moins une semaine par mois, par mont et par veau, à travers ce continent.
Lorsque vous êtes nommé Gérard Haro à Washington, c'est en 2014. Ça n'est pas encore Donald Trump qui est à la Maison Blanche. C'est encore Barack Obama. Donc, je suppose que là, les relations, les modalités de travail sont un petit peu plus normales que ce qui va se passer ensuite. Vous disiez donc il y a aussi l'idée de faire comprendre aux Américains ce qu'est la politique française. Est-ce que vous avez par exemple une lettre de mission qui vous est donnée alors par le Quai d'Orsay en disant voilà, il faut appliquer au plus possible et faire comprendre le plus possible quelle est la doctrine de politique étrangère de la France à l'égard des États-Unis. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe?
Oh oui, mais c'est même plus précis que ça. Vous avez ce qu'on appelle des instructions, c'est-à-dire qu'un ambassadeur, avant de partir en poste, a ce qu'on appelle une réunion d'instruction. Vous avez autour d'une immense table tous les ministères, qui sont là et qui, à tour de rôle, vous disent voilà nos priorités dans nos relations avec les États-Unis. Et cela donne un gros livre. Vous partez avec un gros livre de plusieurs centaines de pages où tous les sujets, depuis les sujets consulaires jusqu'aux sujets de santé, de transport, d'aviation, et Dieu sait si avec les États-Unis nous avons évidemment par définition une relation extrêmement intense et extrêmement diverse. Donc on part avec beaucoup de munitions et on sait à peu près où on va. Et on ne fait pas que de la politique, on fait aussi, comme je l'ai dit, du commerce. Mais vous savez, par exemple, lorsque les États-Unis sous Obama ont levé les sanctions contre l'Iran, il a fallu que je me batte pour que Airbus puisse vendre ses avions à l'Iran. Et donc j'ai passé des journées à aller au département du Trésor, au département du commerce, pour régler ses affaires.
Ce gros livre qui vous est confié, Gérard Haraud, est-ce que, en tant que diplomate, vous avez votre mot à dire sur son contenu? Ou bien est-ce qu'on vous le donne déjà tout rédigé et à vous ensuite d'aller essayer de le vendre le mieux possible, disons?
Disons que, d'abord, moi je pars, donc quand je pars, je n'ai pas vraiment d'opinion sur le pays de résidence, hein, l'ambassadeur qui part, donc on part avec ses instructions, et ensuite évidemment qu'on a on voit ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, parce que vu de Paris, vu des ministères parisiens, il y a ce qui est normal, beaucoup d'irréalisme ou peut-être parfois d'ignorance, et donc il y a à l'évidence des choses qui n'ont pas de sens ou au contraire d'autres choses qui pourraient être plus intéressantes. L'ambassadeur a quand même évidemment son mot à dire. Puis il est en dialogue permanent avec Paris, à la fois par la correspondance officielle, les télégrammes qu'envoie l'ambassade, mais aussi par les mails, par le téléphone. Et donc il y a vraiment. Et vous avez, quand vous êtes parti, vous avez quand même la confiance aussi de vos autorités, surtout quand vous partez à Washington. Donc évidemment, l'ambassadeur, au bout d'un certain temps, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, il a son mot à dire. Et d'ailleurs, c'est au bout de 6 mois qu'il renvoie à Paris un document, n'est-ce pas, pour d'une certaine manière faire déjà le point de la situation après ces 6 premiers mois, en proposant des inflexions ou de nouveaux domaines d'action.
Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, dans le cadre de vos fonctions, alors je pense à Washington parce qu'on s'intéresse beaucoup évidemment aux États-Unis, mais également par exemple lorsque vous étiez ambassadeur en Israël, d'être en désaccord important sur certaines directives et avec peut-être la volonté de négocier avec votre interlocuteur à Paris, avec le Quai d'Orsay?
Oui, naturellement, ça arrive, hein. C'est la grandeur du fonctionnaire. Vous avez une instruction, vous pensez pour des raisons diverses, hein, vous pensez que ce n'est pas la bonne instruction. C'est votre devoir de dire, moi je pense que ça, ça ou ça. Ensuite, l'autorité parisienne décide. Et il m'est arrivé que l'autorité parisienne ne m'écoute pas. Et bien ensuite, c'est la grandeur du fonctionnaire. Vous mettez en œuvre la politique du gouvernement, que vous l'approuviez ou que vous l'approuviez pas, et vous devez le faire avec le même zèle, la même intelligence, la même loyauté que si vous approuviez cette instruction.
Vous pouvez peut-être faire savoir, tout en appliquant ces directives avec le même zèle, que vous n'êtes pas entièrement d'accord. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors en 2017, juste avant l'élection présidentielle française, quand se profilait un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a un de vos collègues, appelons-le comme ça, l'ambassadeur de France au Japon, Thierry Dana, qui avait annoncé que si Marine Le Pen était élue, lui, il refuserait de servir son administration. Est-ce que ça fait partie des possibilités qu'a un ambassadeur de démissionner ou de dire en tout cas, non, là, dans ce cas précis, je refuse absolument?
Vous savez, c'est pas seulement un ambassadeur, hein, c'est tout haut fonctionnaire. Vous savez, ma génération, hein, de haut fonctionnaire, j'ai 67 ans, nous avons fait notre carrière à l'ombre de ce qui est arrivé en juin 40. C'est-à-dire que je me rappelle, nous avons tous eu des conversations. Qu'est-ce que j'aurais fait en juin 40? Est-ce que j'aurais continué à servir ou est-ce que je serais parti? En sachant très bien qu'il est facile de dire 20 ans ou 40 ans plus tard, moi j'aurais été un héros. Non, c'est pas si simple que ça. Et donc nous avons tous, enfin en tout cas dans ma génération, il y a toujours eu cette idée à partir duquel moment on doit démissionner. Voilà. Et ça, c'est une question de conscience. Et donc mon collègue et ami au Japon qui a déclaré ça, c'était sa conscience. Et moi, je crois d'ailleurs que j'ai envoyé un tweet pour l'approuver. Et je l'ai fait parce que je savais très bien que tout le monde allait lui tomber dessus, tout en pensant de mon côté que ce n'était pas une très bonne idée de le dire, parce que dans une élection marquée par le populisme contre les élites, c'était pas une très bonne idée qu'un ambassadeur dise je me prononcerai contre le résultat d'une élection. Ça, c'était un peu mon opinion, mais par solidarité avec mon collègue, je ne voulais pas qu'il soit tout seul face à la tempête qui allait se lever au Quai d'Orsay contre lui.
Vous disiez, Gérard Araud, qu'aurions-nous fait, nous, en juin 40? Ça tombe bien que vous évoquiez cette question, puisqu'évidemment, l'homme de juin 40, l'appel du 18 juin, c'est celui du général de Gaulle. Le général de Gaulle qui, lorsqu'il va revenir au pouvoir en 1958, va imprimer une réorientation assez importante de la diplomatie française et dans sa relation avec les États-Unis. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Et dans les grands enjeux donc de cette relation franco-américaine, il y a l'indépendance stratégique de la France, directement héritée du gaullisme.
Oui, le général de Gaulle donc avait évidemment été très marqué par les relations parfois houleuses qu'il avait entretenues avec le président Roosevelt et l'administration américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait alors ni plus ni moins que d'éviter à la France de devenir un protectorat américain. Le gaullisme n'a pourtant pas été un anti-américanisme, très loin s'en faut. Dans le contexte de la guerre froide, le président français avait bel et bien choisi son camp et il était même venu le dire à Washington devant le Congrès, c'était le 25 avril 1960.
La France, pour sa part, a choisi. Elle a choisi d'être du côté des peuples libres. Elle a choisi d'y être avec vous. Mais, Américains, dans la très grave partie qui s'engage, sachez-le, rien ne compte davantage pour la France que la raison, la résolution et l'amitié du grand peuple des États-Unis, je suis venu vous le dire.
Voilà, cette belle entente affichée n'empêchera pas les tensions et les froids diplomatiques entre les deux pays les années suivantes, avec notamment le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN qui a marqué les esprits, c'était en 1966. À l'origine de ce tournant spectaculaire, il y avait une volonté française de rééquilibrage des responsabilités au sein de l'Alliance, notamment pour les questions de commandement, des demandes que de Gaulle savait inacceptables pour les Américains, d'où ce quasi-divorce de 1966, signifié d'ailleurs des termes très directs au président américain Johnson. Dans une lettre officielle, Charles de Gaulle écrivait « La France considère que les changements accomplis ou en voie de l'être depuis 1949 en Europe, en Asie et ailleurs, ainsi que l'évolution de sa propre situation et de ses propres forces, ne justifient plus les dispositions d'ordre militaire prises après la conclusion de l'Alliance ». Et ce positionnement vis-à-vis des États-Unis va laisser des traces dans l'imaginaire politique français, notamment dans le camp gaulliste, en tout cas jusqu'au début des années 2000. Au moment de la deuxième guerre d'Irak, Jacques Chirac avait peut-être en tête cette indépendance nationale chère à De Gaulle lorsqu'il promettait de s'opposer aux États-Unis jusque dans l'enceinte très feutrée du Conseil de sécurité.
Ma position, c'est que, quelles que soient les circonstances, la France votera non parce qu'elle considère, ce soir, qu'il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak.
C'était Jacques Chirac en 2003 et c'est son successeur, Nicolas Sarkozy, qui annoncera en 2007 le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Évidemment, le contexte international avait beaucoup changé depuis les années de Gaulle, mais au moins symboliquement, une page était bel et bien tournée entre les deux pays.
Merci Antoine. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Gérard Araud. Il est à New York, ancien ambassadeur de France à Washington de 2014 à 2019. Gérard Araud, est-ce qu'il reste encore des traces importantes de cette période gaullienne dans les relations diplomatiques entre la France et les États-Unis aujourd'hui ?
Oui, d'abord je voudrais faire une petite remarque, c'est-à-dire le retour dans le commandement intégré, c'est en effet Nicolas Sarkozy, mais figurez-vous que Jacques Chirac avait essayé de regagner ce commandement intégré dès 1995, mais les exigences françaises n'avaient pas été satisfaites. Donc, gaulliste, pas gaulliste, la différence est moindre qu'on le pense, et surtout c'est lié tout simplement au changement de circonstances, c'est-à-dire ce qui avait justifié justifier que De Gaulle nous fasse sortir du commandement militaire faisait qu'avec la chute du communisme, la conclusion par Jacques Chirac avait été de dire il faut au contraire maintenant regagner le commandement militaire. Alors le gaullisme a une influence absolument majeure dans la diplomatie française, sur les diplomates français, sur les hommes politiques français. Il y a du côté de la France une volonté d'indépendance, et cette volonté d'indépendance est toujours mal vécue par les Américains. Nos amis américains, n'oublions pas, sont rentrés sur la scène internationale en 1945. Juste avant, ils s'étaient toujours tenus à l'écart des affaires internationales et n'avaient été entraînés dans la Première Guerre mondiale que par les erreurs de l'Allemagne et contre leur volonté. Ils arrivent en 1945 sur la scène mondiale, ils ont 60% du PNB mondial, et pour eux, la relation internationale, ce sera toujours une relation où ils sont les leaders. Les Américains n'acceptent jamais l'égalité, ils ne connaissent que le leadership, et donc lorsque quelqu'un leur résiste, eh bien ils sont surpris, assez maladroits et souvent brutaux.
Et ça, quelle que soit la personnalité qui se trouve à la Maison-Blanche.
Oui, quel que soit. Alors ça, évidemment, les méthodes sont différentes, que vous soyez Donald Trump ou peut-être Joe Biden ou Bill Clinton ou Obama, naturellement. Mais derrière le président, vous avez toute la machine. Vous savez, quand s'il n'y a pas que le président en face de vous, vous avez par exemple l'énorme machine militaire. Et là, vous avez en face de vous des militaires qui sont assez brutaux, et alors que nous avons beaucoup d'intérêt de travailler avec eux. Et les militaires, par exemple, beaucoup n'ont pas oublié 2003, n'ont pas oublié l'Irak, et restent, pour certains, solidement anti-français. Et donc, la coopération militaire avec eux n'est pas toujours facile.
Je le disais, vous avez donc arrêté votre carrière d'ambassadeur l'an dernier, sur ce poste prestigieux qui est celui d'ambassadeur de France à Washington. Qu'est-ce qu'on peut imaginer que fait actuellement votre successeur, Philippe Étienne, à quelques jours donc de cette présidentielle américaine? Est-ce que l'ambassadeur est là pour prendre, par exemple, des contacts diplomatiques avec les équipes des deux candidats pour préparer la suite, ou bien c'est une position un petit peu d'attentisme?
Alors d'abord, le malheureux doit être victime de toutes les restrictions du coronavirus, donc il ne peut pas avoir de sans doute. Vous savez, la résidence de l'ambassadeur de France à Washington, c'était une énorme machine à recevoir. C'est-à-dire, moi, chaque semaine, j'avais 2-3 cocktails, 3 dîners, des petits déjeuners, et ce qui permet de rencontrer les élites américaines. Donc le malheureux ne peut pas faire ça. Il a à l'évidence deux sujets. L'un, c'est d'essayer de deviner le résultat, quand même, pour pouvoir donner à Paris quelques indications. Et le deuxième et le plus important, vous avez parfaitement raison, c'est d'essayer d'entrer en contact avec les futures équipes. Alors là, je dois avouer que, alors je suis un peu méchant pour lui, mais avec l'équipe Biden, c'est pas trop compliqué en théorie, parce que ce sont des gens qu'on connaît bien. Ce sont des gens qui étaient plus ou moins les équipes d'Obama et les autres démocrates de Washington, qui sont assez ouverts sur les ambassades, qui parlent assez facilement avec les Européens. Le problème qu'il a, Philippe, à l'heure actuelle, c'est que Biden, à cause du précédent de 2016 de Trump, interdit tout contact entre ses équipes et des ambassades étrangères. Vous vous rappelez qu'en 2016, on avait accusé l'équipe de Trump d'avoir eu des contacts avec les ambassades, notamment l'ambassade de Russie. Et ça avait été le début du scandale, des enquêtes, l'enquête Mueller, etc. Et donc Biden, pour ne pas prêter le flanc au même type d'ennui, a totalement interdit à son équipe de parler aux ambassades étrangères, quelles que soient ces ambassades. Donc là, je crains que mon successeur éprouve des difficultés.
Eh ben, on va lui souhaiter bon courage pour les jours, exactement, les semaines et les mois à venir. Merci beaucoup Gérard Araud d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce numéro de Politique. Je rappelle que vous étiez à New York. Je précise également que pour clôturer cette semaine américaine, il va y avoir notamment une nuit américaine sur France Culture le 3 novembre prochain. Ce sera l'occasion de réentendre des grandes voix américaines, justement venues sur notre chaîne ces dernières années. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Thomas Jost, avec à la prise de son Edouard Rubinstein. Émission que vous pouvez écouter et télécharger sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Voilà, je vous donne rendez-vous lundi à 8h45 pour la transition dans les matins de France Culture.